RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis.
La République démocratique du Congo, le Kenya ou encore la Tanzanie. Oui, Léon XIV connaît bien l'Afrique, ce qui donne de l'espoir aux fidèles catholiques du continent. Ils sont nombreux à vouloir que le nouveau pape marche dans les pas de François. Les inquiétudes du PAM et d'Ocha concernant l'aide internationale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les deux branches onusiennes tirent la sonnette d'alarme. L'une sur l'aggravation de la faim, l'autre sur ses objectifs humanitaires. Se préparer à revivre des catastrophes naturelles comme celle du séisme d'Alaouz en 2023, ce n'est évidemment pas le souhait des autorités marocaines, mais Rabat met en place des réserves de première nécessité un peu partout sur le territoire pour pouvoir apporter de meilleures réponses en cas d'urgence. Et puis une ONG sud-africaine de protection de parcs nationaux dans la tourmente, African Parks, reconnaît des violations des droits humains, notamment au Congo-Brazzaville, où des membres du peuple Baka parlent de violence, de torture et même de viol. Son parcours est épié, ses aspirations analysées et on ne compte plus le nombre de portraits qui sont faits de lui dans la presse. Depuis jeudi soir, Robert Francis Prévost est le nouveau chef de l'Église catholique, succédant ainsi à François sous le nom de Léon XIV. Beaucoup de fidèles l'espèrent dans la lignée de l'Argentin, ce dernier qui avait donné une place plus grande au continent africain au sein de l'institution. Et Léon XIV, donc, pourrait faire l'une de l'Afrique, l'une de ses priorités pastorales, lui qui connaît déjà très bien le continent. Au Vatican, la correspondance d'Éric Sénanque.
Le continent africain est loin d'être une terre inconnue pour le nouveau pape Léon XIV. Quand il occupait le rôle stratégique de préfet du dicastère pour les évêques au Vatican, le cardinal Prévost a effectué plusieurs visites dans des pays d'Afrique, la dernière au Kenya en décembre 2024, où il avait présidé la dédicace d'une chapelle non loin de Nairobi. Mais c'est surtout lorsqu'il était le prieur général de l'ordre de Saint-Augustin que ce missionnaire reconnu a multiplié les déplacements sur le continent, comme en République démocratique du Congo ou encore en Tanzanie. Sa filiation spirituelle avec l'ancien évêque d'Hippone, devenu père de l'Église, place aussi le nouveau chef de l'Église catholique en lien direct avec l'Afrique. Les prochains dossiers du nouveau souverain pontife, comme la lutte contre la pauvreté ou encore la crise migratoire, devraient aussi le rapprocher du continent dans la dynamique lancée par le pontificat de François. Ses premiers mots jeudi, appelant à la paix depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, ne sont pas passés inaperçus dans plusieurs pays déchirés par les conflits. Une joie d'entendre les premières paroles du pape, un message qui devrait nous réconforter, a salué ainsi le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Ncholé. Léon XIV souhaite une église attentive à tous ceux qui souffrent, a-t-il expliqué, une promesse pour l'avenir, en attendant un premier voyage apostolique dans un pays d'Afrique. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Au Niger, les trois journalistes de la radio Sahara FM ont été repris par la gendarmerie. Il était vers 1h du matin cette nuit. Ils sont actuellement à la brigade de gendarmerie d'Agadez dans le nord du Niger. Information du groupe Air Info dont fait partie Sahara FM. Ils avaient d'abord été interpellés une première fois dans la nuit de mercredi à jeudi. Hier vendredi, ils ont été présentés à un juge qui les a libérés sans poursuite. Les trois journalistes avaient relayé une information publiée par LSI Africa concernant des contrats entre le Niger d'un côté et la Russie et la Turquie de l'autre, contrat qui aurait été rompu selon le média. Le Niger qui signe un protocole d'accord sur la coopération sécuritaire avec l'Iran. Pour l'occasion, une délégation iranienne était en déplacement à Niamey, à la clé de la formation et du partage d'informations dans différents domaines. Lutte contre le terrorisme et la criminalité ou encore contrôle des frontières. Signature qui survient un peu plus d'un an après la visite à Téhéran du premier ministre nigérien Mahamane Lamine Zeyn. On en parle plus en détail dans le prochain journal de Marion Cazanove dans une demi-heure. 36 millions, c'est le nombre de personnes qui, actuellement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires selon le PAM, le programme alimentaire mondial onusien qui tire la sonnette d'alarme et qui craint que ce chiffre ne dépasse les 52 millions de personnes pendant la période estivale de la soudure entre deux récoltes. L'agence onusienne qui, il y a deux mois, évoquait une crise sans précédent en raison notamment d'une baisse de 40% de ses financements en 2025, mais aussi de l'arrêt des programmes d'aide américains et de la réduction des aides de plusieurs pays occidentaux. Je vous propose d'écouter Jauns Demajangar, un porte-parole du PAM en Afrique centrale et de l'Ouest.
Les projections indiquent que la période de juin à août, qu'on appelle communément la période de soudure ou la faim, atteint vraiment le niveau le plus élevé. Il y aura à peu près plus de 52 millions de personnes qui seront dans cette situation-là. Et parmi elles, près de 3 millions atteindront un niveau un peu plus sévère. C'est une aggravation si l'on compare, par exemple, à l'année 2019. Il n'y a que 4% de la population qui était dans cette situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 12% de la population. Et ça, c'est une situation qui affecte particulièrement la couche des populations forcées au déplacement à cause des conflits. Elles n'ont pas accès à leurs moyens de subsistance et ne dépendent que de l'assistance du Programme alimentaire mondial. À un moment où nous faisons face à des sérieux problèmes de financement qui font qu'on n'est pas malheureusement en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins comme il se doit.
Djaoun, c'est Dema Djangara, porte-parole du PAM en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il était joint par Weli Diallo et c'est dans ce contexte qu'une autre branche des Nations Unies, OCHA, le Bureau des Affaires Humanitaires, a annoncé réduire de moitié sa voilure en République démocratique du Congo. L'ONU parle d'un lourd déficit de financement. Illustration avec cet appel de fonds lancé en février dernier dont l'objectif était de récolter quelque 2,6 milliards d'euros mais qui est resté largement ignoré. Et Passion Ligaudi, les décisions de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche n'y sont pas étrangères.
La tendance était déjà inquiétante et elle vient de se confirmer. À la fin du mois d'avril, seuls 9% des fonds demandés avaient été mobilisés. C'est moitié moins que l'année dernière à la même période. La raison principale, la suspension de l'aide américaine. Washington finançait à lui seul 70% du budget humanitaire. Conséquence directe, des secteurs vitaux comme la santé, la sécurité alimentaire ou encore la réponse aux urgences sont aujourd'hui en danger. Et face à cette chute brutale des financements, l'ONU a dû faire des choix. Une liste rouge a été dressée et seules les interventions jugées les plus urgentes seront maintenues. Ce sont des millions de personnes qui risquent ainsi de ne plus recevoir d'aide. L'ONU veut concentrer les efforts sur les plus vulnérables, optimiser l'impact avec ce qui reste. Autre priorité désormais, trouver de nouveaux partenaires. Gouvernement, bailleurs de développement, secteur privé, tous sont sollicités. Et puis cette crise pose aussi la question des responsabilités locales. L'ONU appelle l'État congolais à s'impliquer davantage en apportant un soutien logistique, en facilitant l'accès aux zones touchées et en renforçant la coordination au niveau provincial. Un appui essentiel pour que les humanitaires puissent se concentrer sur les urgences et n'aient pas remplacer les services publics.
Les explications de Patient Ligaudi. Radio France Internationale, l'actualité du continent africain. En bref, il n'y a pas eu de rassemblement au Mali hier. Le meeting à Bamako avait été reporté par ses organisateurs après la suspension de toutes les activités politiques du pays par les autorités de transition et cela jusqu'à nouvel ordre. En revanche, plusieurs cas d'enlèvement d'hommes politiques ou de tentatives d'enlèvement ont eu lieu dans la capitale hier et avant-hier, jeudi dans la journée. C'est un militant du parti ILEMA qui a été enlevé par des hommes en cagoulé. Un peu plus tard dans la journée, un ancien député Alassane Abba également enlevé. Et ce vendredi, des tentatives d'enlèvement ont également été signalées. Vous en lisez davantage sur notre site internet www.rfi.fr. Agadir en 1960 ou plus récemment, Alaouz en septembre 2023. Les souvenirs de ces séismes sont encore douloureux et très présents dans la mémoire des Marocains. Si la solidarité marocaine avait été mise en lumière après la récente catastrophe, les autorités veulent faire mieux et disposer d'une capacité de réaction à la pointe. Le Royaume a ainsi lancé la construction de plusieurs plateformes de réserve de première nécessité. Au total, 12 doivent être mises en place pour couvrir l'ensemble du territoire et se doter à terme de l'un des systèmes de gestion des catastrophes parmi les plus avancés sur le continent africain. Alors pour mieux réagir face aux catastrophes naturelles, les autorités ont lancé la construction donc de plusieurs plateformes. RFI Casablanca, Mathias Reynal.
C'est le roi Mohamed VI qui a donné le coup d'envoi mercredi des travaux de construction de la plateforme pour la région de Rabat. Alors que le changement climatique fait peser sur le Maroc la menace d'épisodes météorologiques violents, alors que le royaume a connu il y a peu un tremblement de terre traumatisant, il s'agit d'apporter une réponse efficace et rapide aux catastrophes, séismes, inondations, accidents industriels. L'objectif de ces plateformes, c'est de pouvoir intervenir dans les 6 heures qui suivent le déclenchement des opérations de secours. Chaque région du Maroc sera dotée à terme d'une grande grande plateforme de réserve de première nécessité. Gérée par la protection civile, on y trouvera des denrées alimentaires, des équipements destinés au sauvetage, à l'hébergement, à la prise en charge sanitaire, permettant de rétablir l'accès à l'eau, à l'électricité des populations. La plateforme de la région de Rabat s'étendra sur un terrain de 20 hectares. Elle doit sortir de terre d'ici 12 mois. Plus de 670 millions d'euros ont été débloqués pour l'ensemble de ces stocks stratégiques, l'un des projets les plus ambitieux du continent en matière de préparation nationale au risque. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Le Maroc, où 9 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans un quartier de Fès. 7 autres personnes ont été blessées, certaines grièvement. L'ONG sud-africaine de conservation de la nature African Parks dans la tourmente, présente dans 13 pays du continent, est connue pour sa gestion de parcs nationaux en accord avec les gouvernements dans des zones souvent dangereuses. Elle est accusée de violation des droits humains au Congo-Brazzaville. Jeudi soir et après la publication d'une enquête réalisée par un cabinet indépendant, sa direction a reconnu qu'une partie de ces accusations était avérée. RFI Johannesburg, Claire Bargelès.
L'organisation a reconnu que dans certains cas, des violations des droits humains ont été commises, sans plus de précision sur les cas en question. Nous regrettons profondément la douleur et la souffrance causées aux victimes, poursuit-elle dans un communiqué. Les accusations sont graves. Des membres du peuple Baka affirment que les rangers d'African Parks leur ont fait subir des violences, des tortures et même des viols dans le cadre de leur mission de protection du parc national d'Odzala-Kokwa, qu'ils gèrent depuis 15 ans en accord avec le gouvernement de Brazzaville. Ces victimes sont soutenues par l'organisation Survival International, qui avait également alerté il y a plusieurs années sur les atteintes aux droits de l'homme dans le bassin du Congo par des éco-gardes liés à des projets financés par le WWF, qui a depuis changé ses pratiques. African Parks affirme désormais prendre les mesures nécessaires, reconnaissant des défaillances. Ce n'est pas la première fois que l'ONG, longtemps présidée par le prince Harry, qui siège toujours à son conseil d'administration, est critiquée pour son modèle de conservation de la nature, qualifiée de forteresse très exclusive pour les populations locales. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Les autorités sud-africaines qui, par ailleurs, ont réagi à la révélation dans les médias américains de l'accueil dès la semaine prochaine d'Afrikaners aux États-Unis. Les Afrikaners, ces premiers colons européens que Donald Trump dit être persécutés et à qui il a offert l'asile. Les allégations de discrimination ne sont pas fondées, affirme Pretoria, assurant que le gouvernement n'empêchera pas les Sud-Africains voulant quitter le pays de le faire.
Merci Nemo Rampis, bonne journée à vous.